Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design avec François L'Enfant, qui a travaillé plus de 30 ans chez GE Healthcare, d'abord comme designer produit, pour finir comme manager du design global et de l'expérience utilisateur. Il nous parle de son parcours et de ce qu'il en retient, comme par exemple l'importance d'avoir une vision sans compromis, ce qu'il a découvert aux côtés de Jean-Claude Decaux. Puis nous échangeons sur son expérience chez GE Healthcare, de l'équipe design qui a beaucoup évolué, de la nécessité d'avoir le soutien du CIO, de l'importance de la vision partagée pour que le design trouve sa place, de la nécessaire complémentarité des profils dans les équipes pour que le projet devienne produit, de l'évolution de la place du design qui, de la touche artistique sur un produit, est devenue le faire-valoir du marketing pour enfin trouver toute sa place dans la valeur d'usage. Une donnée objective et mesurable.
Bonjour François, pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Oui, bonjour Annabelle. Mon parcours est assez linéaire finalement, mais je dirais qu'au départ de ce parcours, il y avait un intérêt pour ce que représente la combinaison entre l'art et la fonction, et c'est comme ça que je suis venu au design industriel. Ça m'intéressait d'essayer d'imprégner le quotidien de sensibilité, de culture, de sens. Et en fait, c'est pour ça que j'ai commencé des études de design. D'abord, c'était une préparation aux études supérieures artistiques. Et puis, ensuite, je suis entré à l'école supérieure de design industriel. Et à la suite de quoi, j'ai fait un troisième cycle en ergonomie et écologie humaine. C'est à la fois l'étude des conditions de travail, bien sûr, l'ergonomie, et puis c'est aussi l'étude du milieu où on vit, et puis la relation entre et l'équilibre entre l'humain et son milieu. Donc, c'est un petit peu la formation qui a été la mienne, et ensuite je suis rentré dans l'univers du travail par une agence de design à New York, Kato DBG, Degrit Beauchamp Gobet, il y a très longtemps évidemment. Marc Gobet m'a enseigné un certain nombre de choses que je garde en mémoire. L'une d'entre elles, c'était combien il était important de considérer le contact créé par la marque plus que l'impact de cette marque elle-même. Voilà, le contact est plus important que l'impact, et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé en mémoire. Je suis pas resté longtemps à New York, mais c'était très intéressant pour moi de commencer à travailler sur le design de produits, principalement sur le premier moulin à café électrique développé par Maxwell's House, puisqu'aux États-Unis, finalement, le café en grains ne se vendait pas. Et donc, on a été amené à développer ce produit. C'était pour moi le premier travail de design industriel. Et puis après, j'ai travaillé chez Jean-Claude Decaux, mobilier urbain, tout ce qui est aménagement dans la ville. C'était pour moi un apprentissage incroyable, où j'ai compris aussi chez Decaux, parce que je travaillais directement avec Jean-Claude Decaux, j'étais un peu son souffre-douleur artistique, l'importance de la vision et puis l'importance d'une exécution sans compromis. Et c'était intéressant de voir que le fondateur de cette entreprise était lui-même un visionnaire et donnait naissance à ses solutions, à ses produits, comme un artiste ou même parfois comme un designer. Donc ça m'a beaucoup enrichi. À la suite de cette expérience, j'ai travaillé chez Emmanuel Ungaro, c'était de la haute couture à Paris, des accessoires de mode. Et là encore, j'ai appris beaucoup de choses, notamment à quel point il est important de cibler son expression artistique, de cadrer les archétypes, le type de marché qu'on veut toucher et le type de consommateur, d'utilisateur qu'on veut toucher. Et voilà, c'était un petit peu mon cadre d'apprentissage avant de rentrer chez General Electric, la branche médicale de General Electric, GE Healthcare. J'ai été designer produit, principalement donc dédié à tous les équipements d'imagerie médicale, tout ce qui permet le diagnostic, les rayons X, les ultrasons, etc. Donc j'ai été designer, programme manager, j'ai grandi dans cette organisation. J'ai été promu manager, ensuite je me suis occupé des marchés développés, de l'Europe au sens large, et je suis devenu general manager de l'expérience utilisateur, du design langage, etc. Et tout dernièrement, j'ai terminé mon activité chez General Electric en étant le général manager de l'organisation. Ça, c'était lorsque Global Design entrait dans une période transitoire qui nous a fait traverser le Covid jusqu'à mon départ. Donc, voilà un petit peu pour le contexte. Ce que j'ai appris de General Electric, c'est évidemment, en plus de 30 ans, absolument énorme. C'est une entreprise d'envergure internationale, c'est un modèle de management incroyable. C'est cette notion du leadership, de l'engagement, l'esprit d'entreprise, etc. Mais j'ai aussi appris, je pense, l'importance de, en tant que designer, de la négociation, de la ténacité, d'une forme de résilience, parce que finalement, c'est relativement facile d'avoir de bonnes idées et c'est tellement difficile de les réaliser, surtout dans un contexte technologique. Donc voilà un petit peu cette évolution. Chez GE Healthcare, quand je suis rentré, il y avait une seule personne qui faisait du design. Globalement, aux États-Unis, au Japon, quand on mettait tous les designers ensemble, on était peut-être une dizaine. L'organisation s'est développée jusqu'à être à peu près 50 personnes en Chine, aux États-Unis, en Inde, en France. Et puis, très rapidement, l'organisation a doublé. Elle est aujourd'hui, je crois, au-delà d'une centaine de personnes, avec des profils qui sont très variés entre les designers produits, des ergonomes, des designers d'interface. Cela dit, je note une évolution parce que finalement, lorsque je suis rentré chez General Electric, la proportion entre le design d'équipements produits physiques et d'équipements software, c'est évidemment totalement inversé. On était de l'ordre de 80 à 90% sur le design de produits et maintenant c'est plutôt 90% de digital, bien entendu.
Avec votre expérience et votre recul aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a été nécessaire de mettre en place ou quels sont les outils ou les postures qui ont permis vraiment au design de se développer autant dans cette entreprise?
Probablement déjà les circonstances, puisque le GE Healthcare a fait l'acquisition de nombreuses entreprises qui ont permis, notamment en Europe, qui ont permis au design d'être impactant sur beaucoup plus de produits ou de gammes de produits. Donc c'est vrai qu'il faut l'accepter. Mais je pense que d'un point de vue du design, on a eu la volonté de travailler énormément sur la vision, sur l'importance de cette vision, sur l'importance de donner du temps à la recherche et l'importance de créer de la continuité entre la recherche exploratoire et les premières solutions développées par l'engineering. En fait, ça, c'est très important parce qu'on a besoin d'être supporté par le CEO, par le directeur général. Et pour ça, on a besoin de partager la vision du design dans l'entreprise, parce que c'est ça qui va supporter le CEO et qui va lui permettre d'impacter son organisation. Certes, on est en général dans une organisation design extrêmement tiraillée entre d'un côté la vision du CEO et de l'autre côté la nécessité d'exécution du management intermédiaire qui fait pression sur le design en disant non, ça c'est pas possible, non, ça il faut pas, etc. Donc d'un côté, il y a cette vision du CEO et on se connecte et on s'est connecté de plus en plus au CEO pour pouvoir l'aider à vendre sa vision. Et de l'autre côté, on s'est connecté au quotidien avec les forces vives, avec les ingénieurs et les responsables marketing pour pouvoir procéder à l'exécution de ces solutions, mais toujours avec une ambiguïté entre d'un côté une volonté forte et de l'autre côté des contraintes extrêmement difficiles qui semaient des embûches sur notre territoire. Donc cette notion de vision et d'alignement avec le CEO d'un côté et avec le middle management de l'autre, je pense que ça a été quelque chose qui nous a ancré de manière plus profonde dans la stratégie de l'organisation. Et puis, à un autre niveau, je dirais, l'organisation de l'équipe, c'est-à-dire que l'expérience pour le design, c'est pas une photo organisée autour d'une réflexion plus large. Et le design de produit, il est indissociable du design de l'interface, de l'ergonomie, de la recherche. Et on a fait en sorte de développer des équipes dans le design qui allaient permettre à la fois de rentrer dans cette recherche, à la fois d'adresser la partie du design produit et à la fois d'adresser la partie relationnelle entre l'usager et la machine et avec le développement de ces aspects digitaux et UX, UI. De penser qu'un designer seul ou que le même profil de designer allait pouvoir répondre à la totalité des problématiques était illusoire. Mais dès lors qu'on a commencé à mettre ensemble des designers produits, designers d'interface, des ergonomes et des chercheurs, on a enrichi notre offre et on l'a rendue beaucoup plus lisible auprès du business.
D'accord. Et alors, par rapport à cette notion de vision et de l'importance de la vision du CIO, j'avais une question justement par rapport à ce projet, j'oserais dire emblématique, que vous avez porté, que tout le monde utilise, je crois, comme exemple aujourd'hui quand on parle de design thinking, qui est cet appareil d'imagerie destiné aux enfants. Quand vous avez ce projet à un moment de dire, voilà, la difficulté pour les enfants et pour les parents et pour les médecins de pratiquer de l'imagerie sur un enfant qui a peur et qui n'en a pas envie, et que vous partagez ce projet ou cette vision, est-ce que c'est vous qui amenez ce projet? Est-ce que c'est le CIO qui a cette vision? Comment vous arrivez à amener ce type de projet-là dans un univers, le médical, où à l'époque, hein, si on remet ça dans son contexte, le design n'était pas si présent?
Oui, c'est vrai qu'il y a eu une évolution de l'impact du design dans l'entreprise, dans notre entreprise en tout cas. Et c'est vrai que, pour revenir un petit peu en arrière, lorsque je suis rentré chez General Electric, le design, c'était un peu la dernière touche de décoration pour l'engineering, et le design intervenait très très tard dans le process. Et puis un peu plus tard, le design est devenu un peu le faire-valoir du marketing qu'il utilisait pour pouvoir être plus impactant et choisir des concepts qui étaient les plus pertinents pour son marché. Et puis à un moment donné, on a pris un peu plus l'ascendant sur les sujets du design, tout simplement en étant capable de produire des données objectives. Et notamment sur la valeur d'usage, par exemple, pour la rendre plus mesurable, quantifiable, mais pas que sur ça. Et en travaillant sur le recueil des données dont le design a besoin pour travailler, pour développer l'innovation, on s'est rendu compte qu'on était potentiellement dépositaire d'informations que personne d'autre ne pouvait avoir. La recherche et les données qu'on peut obtenir par l'observation au travers du design, par notre capacité à questionner les problématiques, et bien tout ça nous a fait prendre conscience que il fallait renforcer notre capacité à développer des données que personne d'autre, ni l'engineering d'un côté, qui est vraiment organisé autour de la technologie et de la capacité à faire plus vite et moins cher, ni du marketing qui, lui, est jugé sur des critères purement économiques. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait une sorte de boulevard qui était ouvert devant nous, qui nous permettait d'aller chercher des besoins, d'aller chercher des besoins cachés parfois, et comprendre des aspirations profondes de nos clients, de nos utilisateurs. Et c'est en analysant tout ça qu'on a fini par développer des solutions alternatives aux solutions technologiques. Parce que, par exemple, ces solutions auxquelles vous faites référence ont également le but de réduire la prise de sédatifs par les enfants, pendant les scanners, par exemple. On voit des solutions qui peuvent donner l'impression d'être des solutions de décoration, qui finalement, à la fin, ont une valeur très quantifiable et nous permettent de rentrer en contact avec le business et de rencontrer l'approbation des dirigeants. Donc à la base, évidemment, ce sont des recherches design, et à la base, c'est un succès à la fois d'un point de vue technologique, d'un point de vue clinique, parce que les enfants ne bougent plus ou bougent beaucoup moins, parce qu'il faut moins les sédater, etc. Donc c'est un bon exemple pour nous qui nous a permis d'aller plus loin dans ce domaine.
Et du coup, justement, cette mesure de la valeur d'usage, vous l'avez fait, là vous en parlez, aussi bien sur les enfants, mais aussi sûrement les équipes médicales, c'est-à-dire que vous avez certainement aussi réussi à faire remonter cette mesure de valeur d'usage des équipes médicales et donc de leur pratique quotidienne auprès de votre direction pour faire évoluer les autres produits en cours ?
Oui, absolument. Ça fait partie des éléments qui nous permettent de construire la vision qui va guider le business. Et donc, on peut prendre d'autres exemples comme les derniers mammographes ou les nouveaux échographes, par exemple. Clairement, ces produits ont été orientés par des recherches et un savoir-faire design. Et je dirais même que leur succès commercial rend plus évident que jamais le rôle du design. Il suffit de voir comment nos clients eux-mêmes communiquent sur ces nouveaux produits pour se rendre compte. Donc effectivement, on a eu la même approche pour des produits d'imagerie médicale qui sont complètement différents, notamment parce que au bout d'un moment, c'est difficile pour une organisation de pousser la performance technologique à son extrême, de pousser la réalité économique à son extrême également. À un moment donné, une organisation cherche toujours d'autres outils ou d'autres outils pour se battre sur des terrains qui lui sont peut-être moins familiers. Mais à ce moment, et avec les succès qu'on avait obtenus précédemment, l'organisation a décidé de faire confiance, un peu plus confiance, au design pour pouvoir se différencier et pour pouvoir créer une valeur complémentaire à la valeur économique et complémentaire à la valeur clinique.
D'accord. Et tout à l'heure, vous disiez aussi que aujourd'hui, dans l'entreprise, c'est pas la place du design qui évolue, mais c'est plutôt le type d'intervention, puisque avant, il y avait beaucoup plus de design de produits, et aujourd'hui, beaucoup plus de design d'interface. Est-ce que ça, c'est une évolution pour vous liée vraiment à l'entreprise, ou c'est vraiment lié plutôt au métier et aux pratiques professionnelles de la médecine, on va dire, en général?
J'ai l'impression que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et à la base, on a quand même une réflexion, une observation qui analyse les comportements, les besoins et les aspirations de nos clients et au-delà de nos clients, des utilisateurs des systèmes et de nos patients. Ça, c'est une réalité. De l'autre côté, on a l'émergence de technologies qui nous font réfléchir autrement. Donc on a besoin de connecter les besoins émergents d'un côté et les technologies émergentes de l'autre. C'est un petit peu le rôle du design, pour nous en tout cas, de nous penser comme un pont entre ces besoins émergents et ces technologies émergentes, plus que comme une île isolée dans l'organisation. Et donc, effectivement, ces technologies, elles gravitent autour du digital, mais c'est une contrainte pour nous. Ça nous a fait réfléchir et repenser à la valeur qu'on pouvait apporter à l'organisation, mais c'est aussi une opportunité incroyable de repenser cette valeur. Et c'est comme ça qu'on a progressivement bifurqué vers une autre forme de valeur beaucoup plus soft et intangible, mais où le design a toute son importance.
Et aujourd'hui, après ces 30 ans, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier par rapport à votre impact en tant que designer dans l'entreprise ou peut-être même dans le milieu médical, parce que c'était une période où le design était peu présent dans cet univers-là?
J'ai évidemment vu beaucoup de développement, beaucoup de changements. Je pense que finalement, ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à développer de la valeur design dans un environnement qui était pas totalement favorable au design au début. Même si l'entreprise créée par Thomas Edison, qui était très créatif ou qui a été très créatif, qui a insufflé sa créativité à l'organisation, c'est vrai que il y avait une appétence pour le design, mais pour autant, le design a dû faire sa place. Et j'ai souvent dit, c'est le travail d'une vie, ça l'a presque été. C'est vrai qu'il est relativement difficile de développer le design dans une organisation comme celle-ci. Et puis, de s'adapter aux changements à la fois organisationnels, culturels, aux changements politiques, je dirais, de l'entreprise, puisque le designer a tendance à être un peu relativement stable, c'est un métier passion finalement, alors que l'organisation bouge énormément autour du designer. Et donc voilà, il a fallu s'adapter et adapter sans cesse notre capacité à influencer l'organisation. Donc je suis assez content de voir que après cette trentaine d'années, le design n'a pas disparu, mais c'est au contraire totalement développé. Donc voilà, c'est une modeste contribution, mais qui donne sens un petit peu à ce parcours.
Je vous remercie beaucoup vraiment hein, pour le temps que vous avez consacré à cette discussion et passez une très belle journée.